France Inter.
Et voici le 13-14, Hélène Philly.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Place nette à 100 jours des Jeux à Vitry-sur-Seine, le plus grand squat de France, a été évacué ce matin, 450 personnes y vivaient. Et au Conseil des ministres, le gouvernement fait le bilan des opérations XXL contre le trafic de drogue menées ces dernières semaines. La magistrate d'Agen, mise en examen pour ses liens présumés avec le grand banditisme corse, remise en liberté ce matin. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Décision de la cour d'appel sous contrôle judiciaire.
Oui, 12 jours de détention pour la juge soupçonnée de corruption avec la mafia corse. Mais la cour d'appel d'Aix a donc estimé qu'il n'y avait pas de risque de concertation frauduleuse.
À tout à l'heure, vous nous direz comment la défense compte maintenant contre-attaquer. Nous sommes en Ukraine. Au moins 13 morts dans une triple frappe à Tchernihiv ce matin. Alors que la Maison-Blanche veut imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, on verra si c'est vraiment efficace. Les pompiers sont particulièrement exposés aux PFAS, ces polluants éternels. Et puis les abricots d'Ardèche tombent trop vite, il y a de la perte.
D'habitude je fais 250 tonnes d'abricots, là je vais en faire 60. Quoi. Ça fait 13 ans que je suis installé, j'ai toujours travaillé avec mon père. Mais mon père, il n'a jamais eu une grosse perte comme ça, c'est énorme.
La faute à la pluie et aux températures trop douces. Des mini-voyous dans la chronique cinéma, avec un petit quelque chose des Goonies pour les fans. À 13h30, on pénètre dans le feutré milieu de la danse classique, ébranlé par une parole qui se libère autour des violences pédagogiques. Ça a brisé Francesca Mazzuti. Vous entendrez son témoignage. Notre invitée en direct est la présidente de la Fédération des artistes de la danse. J'attends vos questions. 01 45 24 7000. Et puis juste avant 14h, le meilleur de C'est une chanson, Judith Magre demande Les feuilles mortes chantées par Marcel Mouloudji. Vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous. France Inter. L'opération était attendue et redoutée depuis plusieurs jours dans la banlieue sud de Paris. Ce grand bâtiment, ancien siège d'une entreprise d'autobus à Vitry-sur-Seine, a donc été évacué un peu avant 8h ce matin. Vous en revenez. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Tout s'est passé dans le calme. Une partie de ceux qui vivaient là avaient déjà quitté les lieux.
Ils étaient encore environ 300 ce matin. Mine résignée, toute leur vie dans quelques valises et sacs plastiques. Salier et Massenji, patiente, inquiète. Elle fréquente la même école du quartier en CM.
Ici, c'est bien, un jeu bien, et on ne sait pas comment nous loger. On ne sait pas si on va nous mettre dehors ou on va nous loger.
Bientôt, ça sera la rentrée. On ne sait pas comment on va aller à l'école. On ne pourra pas dormir dehors et partir à l'école.
Les craintes de Sally se confirment. Une chambre à Créteil pour sa famille. Malgré l'eau froide, l'insalubrité, le manque d'hygiène dans ce squat, beaucoup appréhendent le départ. Marwan est soudanais.
On habite ici, ça fait 3 ans. Là, un coup, il vient, il ne sort de là. Soit tu sors dehors dans la rue, soit tu vas à Orléans, soit tu vas à Bordeaux. Les villes que toi, tu ne veux pas aller, il va te forcer pour aller.
Le jeune homme monte finalement dans un bus direction le centre Val-de-Loire.
Mais ses mises à l'abri, Faustine, ils craignent que ce ne soit que temporaire.
D'autant que, comme Marwan, certains abandonnent un travail. Seuls ceux qui ont un contrat de 6 mois minimum se voient proposer un hébergement dans la région. Lucie, bénévole chez Médecins du Monde, intervenait ici à Vitry depuis 2 ans.
C'est-à-dire que les personnes qui sont en formation Pôle emploi, en intérim depuis 5 ans, ça ne suffit pas pour pouvoir rester en Île-de-France. Et sauf qu'en fait, s'il y avait un logement là où ils les envoient à l'extérieur de l'Île-de-France, pourquoi pas, mais c'est des solutions qui sont a priori de 3 semaines, 1 mois. Donc ils ne vont pas quitter l'Île-de-France pour être envoyés 2 semaines à Bordeaux et se retrouver à la rue 2 semaines plus tard.
La jeune femme prédit déjà qu'ils seront nombreux à revenir dans la capitale d'ici 1 mois, quitte à dormir à la rue.
Voilà, on entendait avec vous Faustine, les associations y voient une volonté de faire place nette. C'est le terme choisi par le gouvernement dans sa lutte contre le trafic de drogue et les règlements de compte qui y sont liés. On évoque dans une minute cette nouvelle fusillade à Nîmes hier soir qui a fait 5 blessés, mais d'abord ces opérations d'envergure qui ont été menées ces dernières semaines. La première en version XXL à Marseille. Le chef de l'État avait même fait le déplacement. Le sujet est au menu du Conseil des ministres de ce midi. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Élysée, Simon, pour un bilan qu'on a vu maigre par endroits, mais que le gouvernement défend.
Oui, un bilan de ces 9 opérations XXL qui prend la forme d'une longue liste de chiffres égrenés pendant 5 bonnes minutes par Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.
3814 interpellations, plus de 500 armes saisies.
599 personnes déférées,
260 comparutions immédiates.
Et pour l'intégralité des opérations Place Net en France, 4 tonnes de drogue saisies et quasiment 20 millions d'euros nous avons saisis.
Beaucoup de chiffres, beaucoup de moyens, beaucoup de communication aussi. Mais pour quelle efficacité réelle, interroge notamment des magistrats. Le ministre de la Justice, justement, se garde bien de crier victoire.
On n'est pas venu faire un exercice de culturisme judiciaire en vous disant « on a tout réglé ». Non, ce que je dis, c'est que ce que nous avons fait est bien utile, au fond.
Et c'est un travail de long terme, selon son collègue de l'Intérieur, qui répond au passage à ceux qui disent qu'aussitôt les policiers partis, les trafiquants reviennent.
J'ai été maire d'une commune. Si vous êtes maire et quelqu'un vient vous voir dans la rue et vous dit « monsieur le maire, la rue est sale ». Et que vous répondez, bah vous savez, elle sera sale la semaine prochaine, c'est peut-être pas la peine de la nettoyer. Ouais. Je vous dis, c'est un drôle de maire quand même. C'est pareil pour les points de deal.
Voilà, ligne répressive, plus que jamais revendiquée par le gouvernement. Gérald Darmanin jure que toutes les politiques de légalisation ou de dépénalisation à l'étranger s'avèrent contre-productives. Éric Dupond-Moretti ajoute, non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Simon Le Baron en direct de l'Élysée avec Benjamin Ries. Et l'on apprend aussi que Gabriel Attal se rendra demain à Viry-Châtillon pour détailler un plan d'action sur l'autorité partout pour tous, fait savoir la porte-parole du gouvernement Viry-Châtillon, où un jeune adolescent est mort début avril roué de coups près de son collège. Et cette nouvelle fusillade, donc je vous en parlais hier soir à Nîmes, dans le quartier Chemin Bas d'Avignon, les occupants d'une voiture ont tiré sur un groupe de jeunes au pied d'un immeuble et l'enquête s'oriente bien vers le trafic de stupéfiants. Hervé Salafranc.
Le mode opératoire ne laisse pas beaucoup de place au doute. Il s'agit très certainement d'une énième manœuvre d'intimidation entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogue dans le quartier. Les auteurs, a priori au nombre de 3, avaient pris place à bord d'une Clio noire. C'est sans doute ce véhicule qui a été retrouvé brûlé un peu plus tard dans la soirée, tout près de là à Marguerite. Sur les lieux, devant une épicerie de la place Michel Bully dans le secteur du pont de justice, les enquêteurs ont retrouvé au moins 6 douilles de fusils d'assaut. Au total, les tirs ont fait 5 blessés. Le plus sérieusement touché a été atteint d'au moins une balle dans la cuisse.
Hervé Salafranc, France Bleu, Gare Lozère, tandis qu'à Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit annoncer de nouvelles mesures de sécurité dans le quartier du Blône. La cour d'appel a donc estimé qu'il n'y a pas de risque de fuite ou de contact entre les mises en cause. La magistrate Hélène Guérard, jusqu'ici en poste à Agen, a été remise en liberté aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Elle reste mise en examen pour ses liens présumés avec le grand banditisme corse. C'est rarissime. Emmanuel Leclerc, sa défense, espère donc maintenant contre-attaquer.
Oui, Hélène Guérard, on le sait, est soupçonnée d'avoir fait réaliser un certain nombre de travaux non déclarés dans une villa avec vue sur mer en Corse et d'avoir utilisé les services d'un certain Johan, autrement dit Johan Carta, soupçonné depuis des années d'être un membre éminent de ce que l'on a appelé la bande du Petit Bar sur Ajaccio, l'un des principaux groupes mafieux de l'île. Et sur ces deux points, Cathy Richard, l'avocate de la juge Guérard, estime qu'il n'y a rien, aucune preuve contre sa cliente.
On a pu se rendre compte à quel point tout était modifié, détourné, à quel point rien n'avait été fait à décharge, aucune vérification n'a été faite, notamment concernant son emploi du temps qui pouvait la mettre hors de cause. C'est-à-dire qu'on a un rouleau compresseur qui a duré 3 ans et qui a été en fait de l'inquisition comme au Moyen-Âge. Il n'y a rien dans le dossier. Une manipulation.
Alors, les deux avocats de la magistrate veulent d'abord mettre en avant l'emploi du temps, on l'a compris, de leur cliente, pour mettre en cause son ex-compagnon, ancien enquêteur gendarme en Corse, pour des frais de mission fictifs avec falsification de documents judiciaires. Un ex-compagnon qui, lui, n'a pas été mis en examen dans cette affaire.
Emmanuel Leclerc, merci pour ces précisions. La magistrate qui a l'interdiction de se rendre en Corse pendant la durée de son contrôle judiciaire.
France Inter, le 13-14, Hélène Filly.
L'un des missiles a frappé directement un immeuble d'accueil social à Tchernihiv, grande ville du nord de l'Ukraine. Ce matin, il y a au moins 13 morts et une vingtaine de blessés. Agathe Mahué est notre correspondante à Kiev.
C'est une triple frappe de missiles russes qui a eu lieu en tout début de matinée et qui a touché notamment des infrastructures civiles. Sur ces images, des habitants de Tchernihiv, descendus d'un bus municipal par sécurité, tentent de se mettre à l'abri après une première frappe, au moment où un deuxième missile vient exploser tout près. Le maire précise qu'au moins 5 immeubles ont été détruits, un hôpital, un établissement scolaire. Les victimes civiles sont nombreuses, dit-il, des habitants peut-être toujours sous les décombres à ce stade. Les opérations de secours ne sont pas terminées. Dans cette ville, parmi les plus anciennes d'Ukraine, 300 000 habitants avant la guerre et qui se trouve à 60 km de la frontière biélorusse, il n'y aurait pas tant de victimes si l'Ukraine avait suffisamment de moyens pour défendre son ciel, insiste de son côté Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui réclame à ses alliés depuis des mois davantage de systèmes de défense antiaérienne.
Agathe Mahué depuis Kiev, la guerre en Ukraine et ses répercussions énergétiques, elles ont coûté cher à l'Union européenne, d'autant plus face à des économies américaines et chinoises massivement subventionnées. C'est pour retrouver de la compétitivité que les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent ce soir et demain en sommet à Bruxelles. Et il faut agir d'autant plus vite que Washington renforce le bras de fer avec la Chine aujourd'hui pour toujours plus de protectionnisme. Les États-Unis annoncent une enquête pour pratiques déloyales dans la construction navale et qu'ils vont tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois importés sur le sol américain. La Maison-Blanche veut aussi imposer de nouvelles sanctions à l'Iran après l'attaque lancée contre Israël le week-end dernier. Il faut qu'elles soient coordonnées, insiste le chef de la diplomatie britannique en déplacement aujourd'hui dans l'État hébreu. Et pour quelle efficacité? C'est un peu la question qu'on se pose. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Parce que c'est l'arme traditionnelle utilisée contre Téhéran.
Oui, l'Iran est sans doute le pays qui a subi le plus de sanctions. Il y a eu des hauts et des bas. Le point culminant, c'est en 2006, avec les doutes sur le programme nucléaire. Ça se détend quelques années plus tard. Puis Donald Trump relance le train de sanctions en 2018, complété il y a 2 ans au moment de la vague de répression. Concrètement, l'ONU, les États-Unis, l'Europe ont appliqué toute une palette de mesures. Des avoirs ont été gelés, des interdictions de territoire ont été prononcées. Les gardiens de la révolution ont été classés sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis. Les échanges financiers internationaux ont été bloqués. Et la sanction la plus efficace sur le plan économique reste l'embargo pétrolier. L'impact se mesure essentiellement sur la population. L'inflation a grimpé de 40% depuis 2018. Le taux de pauvreté atteint 30% d'après la Banque mondiale. Pour autant, le programme de construction de drones et de missiles n'a pas été stoppé. C'est donc la nouvelle cible des États-Unis et de l'Europe. Des drones iraniens vendus aux Russes comportent des composants qui viennent de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie. Ça a déjà été identifié. L'Europe a déjà pris des mesures il y a autour d'un an, mais ce contrôle est compliqué. Donc au minimum, ce nouveau régime de sanctions va permettre aux États-Unis d'offrir une réponse concertée à Israël pour espérer contenir la riposte.
Merci Étienne Monin. L'actualité à l'étranger, c'est encore en Suède. Le Parlement qui ouvre le débat, un changement de sexe possible à l'état civil dès l'âge de 16 ans au lieu de 18. Débat sur la transition de genre, l'accord des parents d'un médecin et même de la Direction nationale de la santé serait nécessaire. En Birmanie, l'ex-chef du gouvernement Aung San Suu Kyi a été sorti de prison pour être placée en résidence surveillée, la vague de chaleur dans le pays rendant les cellules invivables. Tandis que l'image à Dubaï, ce sont ces autoroutes inondées, ces écoles fermées et surtout l'aéroport de la ville transformé en piscine à cause de pluies diluviennes. C'est l'un des aéroports les plus importants du monde et une partie des vols a dû être détournée ces dernières heures. Ce que le pays connaît en 2 ans de pluie normalement est tombé en moins d'une journée. Des pluies ravageuses dans une autre mesure au mois de mars en France. Ça et les écarts de température handicapent sérieusement les arboriculteurs du Nord-Ardèche. Lisa Guinic est allée voir l'état des abricots.
Au milieu de ces 17 hectares, Emmanuel montre un abricotier. Il devrait y avoir 1000 fruits, il en reste à peine 100.
On a eu 70% de perte d'abricots. En fait, c'est une perte que c'est pas trop expliqué. Est-ce que c'est dû à trop d'eau? Ça fait 13 ans que je suis installé, j'ai toujours travaillé avec mon père. Mais mon père, il a jamais eu une grosse perte comme ça, même presque inexplicable. D'habitude, je fais 250 tonnes d'abricots, là je vais en faire 60. Quoi. C'est énorme, c'est dur. On a mis les filets, il y avait une jolie floraison. Les abricots, on les voyait, ils sortaient, ils étaient prêts à nouer. On avait d'espoir et en 15 jours, c'est tout tombé par terre.
Jérôme est de la commune d'à côté, de Saint-Victor. Il fait le même constat jusqu'à 70% de pertes.
On est en train de payer le dérèglement climatique.
Les abricots bergerons tombent-ils à cause de l'accumulation des aléas météorologiques? La sécheresse de l'été dernier, les fortes pluies après, 1200 mm d'eau en 6 mois, le vent du sud ces derniers jours. La préfète Sophie Elizéon invite les producteurs à déclarer leurs dégâts auprès de l'État.
De manière à ce que, encore une fois, nous puissions avoir une forme d'état des lieux de la situation avant d'aller après demander des compensations financières si elles peuvent être accordées. Si on arrive à identifier le phénomène météo qui serait à l'origine de cette calamité.
Tous sont d'accord pour dire qu'il va falloir adapter les aides de l'État et les assurances agricoles à ces nouveaux phénomènes.
Reportage France Bleu Drôme Ardèche. Alors que le gouvernement vient de présenter son programme de stabilité en Conseil des ministres, la trajectoire des finances publiques jusqu'en 2027, avec l'objectif de ramener le déficit public à 3%, le Haut Conseil des finances publiques sonne l'alerte une nouvelle fois. Il y voit une prévision qui manque de crédibilité et de cohérence. Son entourage relativise, c'est la vie normale des cabinets. Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, est tout de même privée de trois de ses principaux conseillers, dont sa directrice de cabinet, qui viennent de démissionner. La porte-parole qui avait été très critiquée après avoir annoncé par erreur qu'une tentative d'attentat avait été déjouée le week-end de Pâques. Et l'on en vient à présent à ces tests réalisés dans la région Centre-Val de Loire. Alors que les députés viennent de faire un grand pas contre la présence des PFAS, ces polluants éternels, dans les cosmétiques ou encore dans les vêtements, une proposition de loi écologiste a été adoptée en première lecture début avril à l'Assemblée. 24 volontaires dans la région Centre ont donc donné un peu de leurs cheveux et le plus contaminé d'entre eux est un pompier, Manon Mella.
Sur les 12 polluants éternels les plus répandus, 3 ont été retrouvés dans l'organisme de Jean-Baptiste, 38 ans, sapeur-pompier à Châteauroux et délégué CGT.
Je savais qu'on allait en retrouver. En plus, avec notre profession, on est exposé à des produits toxiques.
Ces PFAS, dans le métier de pompier, on les trouve principalement dans les mousses qui permettent d'éteindre les incendies et sur les équipements de protection.
Lors des incendies, les produits se décomposent, deviennent volatiles et on peut être intoxiqué par les voies soit respiratoires ou même par contact sur la peau.
2 PFAS reconnus comme cancérogènes ont été interdits dans les mousses anti-incendie, sauf qu'il en existe 5000 au total et que les informations sur leur toxicité sont floues.
Il suffit qu'ils changent une molécule et ils peuvent de nouveau l'ajouter dans la perméabilisant ou l'émulseur.
Les syndicats et certains élus réclament aujourd'hui un meilleur suivi médical des pompiers, notamment concernant les cancers. La France n'en reconnaît qu'un seul comme maladie professionnelle, celui du nasopharynx. C'est 12 en Australie, 19 au Canada et 30 aux États-Unis.
Quand on nous demande des scanners thoraciques, on nous regarde avec des yeux, on fait déjà des radios. Non, mais on va pas assez loin en fait.
Le ministère de l'Intérieur annonce avoir lancé une étude épidémiologique sur le sujet, pilotée par l'INSERM. Un observatoire de la santé des sapeurs-pompiers va également être créé. Lancement officiel prévu le 15 mai.
C'est un reportage que vous retrouvez en vidéo sur les réseaux sociaux de France Inter. Et il est question de santé publique aussi avec cette opération de France Nature Environnement pour alerter sur les dangers des émissions des moteurs diesel qui sont encore majoritaires dans le parc automobile français. C'est une opération d'affichage un peu particulière que l'association mène sur les grandes places et le périphérique parisien, Hugo Ossiou.
L'avertissement semble être écrit à la peinture blanche tant il contraste avec le support. Pourtant, ce pochoir sur les murs couverts de crasse a été réalisé au Karcher. Les dangers du diesel pour la santé sont toujours là. Alexandra Froment est coordinatrice du réseau de santé de France Nature Environnement.
Le diesel, c'est 7000 morts par an. C'est 2 fois plus que les accidents de la route. Ça fait 10 ans que le Dieselgate a été révélé. Les véhicules n'ont pas été rappelés par l'État.
Le Dieselgate, c'est ce scandale qui a révélé la tricherie des constructeurs automobiles. Certains modèles affichent un taux de pollution moins élevé que la réalité. D'après un rapport de l'inspection de sécurité au travail, beaucoup de ces véhicules circulent encore.
Sur une flotte de véhicules de 39 millions, un véhicule sur 10 émet plus que la norme sur laquelle il a été vendu. C'est plus de 200 modèles concernés dans presque toutes les marques.
Il y a un mois, la France a été rappelée à l'ordre par la Commission européenne. Elle ne respecte pas les émissions de dioxyde d'azote admises. Or, le diesel est l'un des responsables. Pour Anne Nazman-Trépied, la référente qualité de l'air de France Nature Environnement, il est temps pour l'État d'agir.
Chaque journée qu'on perd en inaction, c'est des maladies, c'est des décès et c'est aussi une surconsommation, donc des factures salées pour les automobilistes.
Le slogan devrait rester inscrit une semaine sur les murs du périphérique parisien avant d'être à nouveau recouvert par la pollution.
Reportage Hugo Ossiou. Il est en difficulté depuis la crise énergétique. On avait parlé à l'époque de ses fours qu'il avait dû mettre à l'arrêt. Le verrier français Duralex demande son placement en redressement judiciaire pour trouver un repreneur à son usine historique du Loiret. 230 personnes y travaillent. Il est loin de Paris en ce jour symbolique. 100 jours, nous sommes à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris. Et le nageur Léon Marchand, quintuple champion du monde, s'entraîne aux États-Unis en ce moment. Son retour n'est prévu que fin juin. Et il ne sera pas simple à gérer. D'ailleurs, c'est un reportage de Jérôme Val.
Le plus tard et le plus discrètement possible. Son entraîneur américain Bob Bowman prévient déjà, pas de flonflon ni de trompettes pour le retour au pays de Léon Marchand. Il faudra le cacher, glisse-t-il sans sourciller. Le nageur de 21 ans le sait déjà. Tout a changé des États-Unis. Il ira directement chez lui à Toulouse début juin, une semaine seulement avant les championnats de France.
C'est pas facile pour moi parce que c'est plus comme avant, quoi. Avant, j'arrivais, j'étais inconnu, je faisais mes petites courses, mes petites finales. Et je rentrais chez moi, là, c'est vrai que c'est pas la même, quoi.
Ses parents, dont son père Xavier Marchand, veilleront eux aussi à ne pas l'exposer.
Il va falloir qu'on limite, évidemment, parce que l'objectif, c'est qu'il soit quand même assez frais pour nager vite. Le seul objectif, c'est qu'il puisse nager vite. On fait un peu au jour le jour aussi, parce qu'on n'a jamais vécu ça, donc on fait au mieux à chaque fois, pour lui et pour nous.
Même ligne de conduite pour la fédération et le directeur technique national, Julien Issoulier. Léon Marchand doit être préservé.
Moi qui vois un peu l'attente des gens autour de lui, que ce soit dans le monde du sport et même en dehors, franchement, il faut le protéger de ça. Il aura largement le temps de le découvrir après les Jeux.
D'autant que pour l'instant, le prodige n'est pas encore qualifié pour les Jeux. Il doit attendre la mi-juin et les championnats de France.
Reportage Jérôme Val. Nous sommes donc à 100 jours précisément aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture. Et une nouvelle salve de 250 000 billets a été mise en vente ce matin, 10h. Première arrivée, premier servi. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Grand Palais où les sportifs ont rendez-vous aujourd'hui pour cette journée symbolique. Le comité d'organisation a donc remis en vente des places. Est-ce que c'était dans toutes les disciplines et à quel tarif ?
Oui, dans tous les sports. Athlétisme, par exemple, finale de saut à la perche avec, on l'espère, le français Thibaut Collet à partir de 85 euros. Du tennis de table aussi avec le tournoi par équipe et nos stars, les jeunes frères Lebrun des 24 euros et même Léon Marchand qu'on entendait à l'instant, le 400 mètres 4 nages, la finale à partir de 85 euros. La billetterie, vous l'avez dit, a ouvert à 10h ce matin, visiblement prise d'assaut puisque pour avoir essayé moi-même, Hélène, j'ai attendu 20 minutes. Donc j'imagine qu'à cette heure-ci, les prix les plus bas doivent déjà être presque tous partis, mais il faut dire que c'est la dernière grande phase de vente, la dernière chance pour qui se dit à 100 jours des Jeux que finalement, ce serait peut-être sympa d'avoir des places.
Mais oui, pour ceux qui se réveillent aujourd'hui, Emma, est-ce qu'il y a encore une possibilité de s'organiser un séjour à Paris cet été ?
Pour les plus rapides qui auront eu des places justement à moins de 100 euros, j'ai envie de dire oui, mais le conseil ce serait d'attendre un petit peu pour prendre l'hôtel qui va avec, parce que c'est une des surprises à J-100, les hôtels ne sont pas pleins à Paris ni dans les autres villes hautes. Certains ont encore plus de la moitié de leurs chambres libres pendant la période et envisagent de baisser les prix. À l'inverse, les sites de location entre particuliers, eux, affichent toujours des prix mirobolants et les réservations continuent malgré tout.
Et pour les petits budgets, Emma, il faut redire qu'il y a aussi la billetterie des Jeux paralympiques, il y a encore énormément de places.
Oui, énormément, car 30% des places seulement ont été vendues, selon le dernier décompte de la ministre des Sports ce matin. Pour les Paralympiques, qui se tiennent donc dans un peu plus de 100 jours, du 28 août au 8 septembre, vous trouverez donc des places à partir de 15 euros, et quasiment dans tous les sports.
Merci beaucoup Emma Sarango. Rappelons aussi que l'application pour échanger ou revendre des places sera disponible à partir du 15 mai. Emma Sarango, en direct du Grand Palais, avec les moyens techniques de Christophe Papon.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
C'est mercredi, c'est cinéma. Bonjour Alexis. Bonjour, de Meilleur. Hélène. Vous les avez tous vus ou presque,
oui.
Les films de la semaine. Vous avez trois coups de cœur. On commence avec une denrée rare, ces temps-ci, un film d'aventure pour toute la famille.
Ce petit bijou s'intitule Riddle of Fire. C'est un jeune réalisateur américain, Weston Razzulli, qui a la bonne idée d'actualiser ce genre qui fleure bon les années 80 quand les Goonies, E.T. et autres chéris gérés Tracy les gosses explosaient les compteurs au box-office mondial.
We need a very special speckled egg so we can bake a blueberry pie for their sick mama.
That's the last box. We just need one.
Nos héros sont des sales gosses au grand cœur, deux garçons et une fille haut comme trois pommes qui sillonnent la campagne vallonnée du Wyoming sur des bicrosses aux faux airs de Harley Davidson. Après avoir volé une console de jeu dans un entrepôt type Amazon, ils découvrent que la mère de l'un d'entre eux a bloqué la télé avec un code parental.
Scandale.
Elle leur donnera le précieux sésame s'ils parviennent à lui confectionner une délicieuse tarte aux myrtilles. Débute alors une odyssée pour obtenir la recette recette et réunir les ingrédients. Il n'y a pas ici les moyens hollywoodiens des productions de Spielberg et consorts cités précédemment. Riddle of Fire est un film fauché mais pas cheap, tourné en 16 mm, ce qui donne un charme vintage à ses aventures en décor naturel, destiné à un public de 7 à 77 ans, pas avant tout de même, car ces gamins ont la vilaine manie de jurer comme des charretiers.
Oh là là, j'ai vu la bande-annonce seulement ça pour ma part, elle donne quand même envie. Toujours aux États-Unis, Alexis, la comédie dramatique Laroy sort en salle ce mercredi.
Ouais, ce premier film signé Shane Atkinson avait tout raflé lors du dernier festival de Deauville. Cette histoire abracadabrantesque d'un cocu suicidaire qui se retrouve tueur à gages presque malgré lui est en effet aussi efficace que séduisante. Rien de très nouveau dans Laroy, on pense souvent à Tarantino ou aux frères Coen, mais là encore, cette veine du polar à la sauce humour noir devenant une denrée rare dans le cinéma US des années 2020, difficile de bouder son plaisir, d'autant que les moments savoureux sont nombreux, avec une galerie de personnages bien gratinés au cœur de la middle class trumpiste d'une petite bourgade texane.
Vous nous conseillez aussi Hopeless, un film sud-coréen très noir.
이런 걸 왜 하냐고 그런 질문은 산 사람들이 나는 거야.
Désespéré, la promesse du titre est effectivement tenue. Frappé par un beau-père alcoolique et harcelé à l'école, un adolescent rejoint un gang sanguinaire. Et ce sont en fait tous les protagonistes de ce film de mafia, quelle que soit leur génération, qui semblent avoir renoncé à croire en des jours meilleurs. Ce qui en fait une œuvre très politique dans un pays, la Corée du Sud, gangréné par la corruption et dirigé par un parti conservateur particulièrement rétrograde sur les questions sociétales.
Et il y a quoi d'autre à l'affiche cette semaine?
Borgo, un drame carcéral avec Afzia Herzi en surveillante pénitentiaire dans une prison corse. Civil War, un thriller d'anticipation sur une Amérique plus fracturée que jamais. Et La Machine à écrire, le dernier chapitre du triptyque que le documentariste Nicolas Philibert consacre à la psychiatrie.
Et puis je vous garde une petite seconde, ouais. Alexis Demeyer, parce que vous avez reçu un courrier, comme vous en recevez rarement, une petite note du réalisateur Quentin Dupieux pour nous dire qu'il ne fera aucune promotion de son film, le deuxième acte qui fera quand même l'ouverture du festival de Cannes.
Oui, un courrier arrivé hier soir à 22h. J'ai envie de me taire, dit Quentin Dupieux, car son film, dit-il, est très bavard. Alors, pas besoin d'en rajouter. Il ne fera aucune promotion pour ce film, contrairement au précédent, et ses acteurs non plus. Et pourtant, il y avait du beau monde, encore une fois, cette fois-ci, avec Dupieux, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Donc, on n'entendra pas ses bons clients. Quentin Dupieux, pardon, étant aussi drôle que d'habitude, il termine son texte en disant « Vous remarquerez que c'est aussi chiant que la pluie, ce texte, mais pourtant, le film l'est beaucoup moins. »
Et ben voilà, c'est bien dans le style de Quentin Dupieux. Merci beaucoup, Alexis Demeyer. 13h27 sur Inter, à suivre dans la prochaine demi-heure. La météo de Sébastien Léas d'abord, ça ne s'arrange pas vraiment. Et puis à 13h30, on parle de violences pédagogiques dans le milieu de la danse classique. D'anciens danseurs prennent la parole et racontent les humiliations subies parfois au quotidien. Ça ne doit pas être le prix de l'excellence. Le problème ne date pas d'hier. Les choses évoluent-elles? Des cellules d'écoute sont mises en place. J'attends vos questions pour nos invités. Invité au 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec le patron de Nigloland, le parc d'attractions de l'Aube en pleine forêt. Et son attraction préférée, c'est le petit train. Il a grandi dedans, vous l'entendrez. 13h50, c'est la France. Bonjour Eric Fotorino du 1 Hebdo.
Bonjour Hélène.
Avec vous, c'est le vélo qu'on enfourche aujourd'hui.
Et oui, on parle de ces vélos qui dépassent les autos dans Paris.
À tout à l'heure. Et puis Frédéric Pommier nous a remixé le meilleur de C'est une chanson toute la semaine. Aujourd'hui, Judith Magre choisit les feuilles mortes.
Moi, j'ai toujours été heureuse en amour. Et je suis toujours tombée sur des hommes qui étaient absolument adorables. Donc, en tout cas, de ce côté-là, je n'ai pas de regrets.
C'est une chanson...
Voilà, Judith Magre et les feuilles mortes, ce sera juste avant 14h et nous on revient dans une minute.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LDD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Avec vous, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Hélène, bonjour
à tous. Une nouvelle journée marquée par des averses.
Oui, les averses sont déjà nombreuses entre la Normandie, l'Île-de-France, les frontières de la Belgique, l'Alsace et Auvergne-Rhône-Alpes. Cette instabilité va persister sur une large partie nord-est de l'Hexagone cet après-midi. Alors les averses seront surtout actives entre les Hauts-de-France, l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté avec des risques de giboulées orageuses. En montagne, la limite pluie neige se situera vers 700 000 mètres d'altitude sur les Vosges, le Jura, le Massif central et les Alpes du Nord. Le temps sera quand même plus sec en Corse et entre la Bretagne et le Sud-Ouest avec des éclaircies plus larges, notamment le long de l'Atlantique. Le soleil sera encore plus généreux sur le pourtour méditerranéen sous l'effet cumulé du Mistral et de la Tramontane. Et puis la fraîcheur s'est installée. Les températures maximales seront quasiment partout sous les valeurs de saison, hormis près de la Méditerranée. Prévoyez 10 à 17 degrés en général, avec 12 degrés pour Paris, Brest, Lyon et Strasbourg, 17 à 21 degrés autour de la Méditerranée. Ce temps frais va d'ailleurs persister jusqu'à au moins le milieu de semaine prochaine. Attention aux petites gelées qui pourront déjà revenir la nuit prochaine et se multiplier durant la nuit de jeudi à vendredi.
Sébastien Léas de Météo France.
France Inter, le 13-14. Hélène Philippe.
L'excellence au prix du silence. Le monde de la danse classique est une nouvelle fois bousculé par le témoignage d'anciennes danseuses qui racontent des violences pédagogiques. Ce n'est pas la première fois, mais l'omerta n'a jamais été réellement brisée. Là où certains voient encore de l'exigence, de la discipline, d'autres dénoncent des humiliations répétées. On va entendre les mots, l'expérience de Francesca Mazzuti dans un instant. Elle a 27 ans. Aujourd'hui, elle a été formée au Conservatoire de danse de Paris il y a presque 15 ans. J'accueille d'abord notre invitée en direct, Sabrina Ostiou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fédération des artistes de la danse qui regroupe 500 structures, 3000 artistes à titre individuel. Vous êtes en duplex de Bordeaux, je le précise, grâce à nos confrères de France Bleu Gironde. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous appeler 01 45 24 7000 ou à écrire sur l'appli Radio France, je lirai vos messages. Sabrina Ostiou, vous représentez donc des danseurs, des professeurs, des chorégraphes. Vous n'avez quasiment jamais quitté le milieu de la danse. Vous dites que ça a été votre école de la vie. Est-ce que ça a été celle de l'épreuve aussi ?
Effectivement, c'est aussi une école de l'épreuve, malheureusement. Effectivement, on peut le constater chaque jour encore lors de différents témoignages que nous pouvons avoir au sein de la Fédération des artistes de la danse, qui, alors vous l'avez spécifié, donc concerne le classique, mais aussi malheureusement toutes les autres disciplines.
Vous avez d'ailleurs connu plusieurs de ces disciplines, on va y revenir, mais comment se traduisaient les remontrances ? Est-ce que vous-même en avez été victime au cours de votre formation ?
Alors, pour ma part, franchement, je peux être assez claire, ça a été quand même minime. Mais malheureusement, effectivement, des petites... Alors ma génération, parce que je suis d'une génération, j'ai un peu plus de 40 ans, et notre génération, en fait, des plus de 40, ont malheureusement, effectivement, eu quelques petits tapes sur la cuisse, quand la jambe ne se levait pas assez haut. Donc du coup, c'est ce genre de brimade, en fait, qui actuellement, effectivement, n'a plus lieu d'être. Alors on peut être clair.
Alors je vous propose justement, avant d'aller plus loin, d'écouter le témoignage de Francesca Mazzuti. Elle vient de Turin, en Italie, et c'est encore une enfant quand elle quitte sa famille pour venir apprendre la danse en France, sur la Côte d'Azur d'abord, et puis au Conservatoire National de Danse de Paris au début des années 2010. Elle y arrive, elle n'a pas 15 ans, et voici ce qu'elle entend.
Un jour, on m'a demandé pourquoi je m'étais trompée sur un pas, et on m'a dit, Francesca, arrête de trouver des excuses, alors qu'on m'avait demandé le pourquoi, j'ai essayé de répondre, arrête de trouver des excuses, dis-toi que t'es nulle, et tu sais rien faire. Donc à l'âge de 15 ans, on est quand même dans l'âge de l'adolescence. J'en ai parlé dans mon témoignage. C'est une phase quand même évolutive, une phase charnière de la vie. On est dans une quête d'identité. Et entendre ça, ça donne pas beaucoup confiance. Donc.
Et c'était pas une exception.
C'était pas une exception parce que c'était assez récurrent, presque quotidien d'entendre ça. On nous a encouragé de temps en temps. Je tiens à dire qu'il n'y avait pas que du négatif, mais il y avait beaucoup, beaucoup de remarques déplacées, de commentaires dévalorisants, dépréciatifs.
On vous dit que vous êtes nulle, qu'il faut que vous cachiez vos genoux. On vous dit même que vous êtes une merde. Vous avez 17 ans.
Oui.
À ce moment-là, il faut dire les mots, hein, je les rappelle. C'était censé vous rendre plus fort, ça ?
Alors, je pense que dans leur optique, c'était censé nous booster, nous bousculer, nous faire réagir. La danse est un art corporel très exigeant qui demande beaucoup de rigueur, de discipline, de dévotion, de travail. Et je pense qu'il est normal en tant que pédagogue de rechercher cette exigence. Et cela passe forcément par la mise en place d'une certaine autorité, j'oserais dire, qui est aussi nécessaire. Ce qui n'est pas normal, c'est d'abuser de cette autorité et de dépasser la frontière entre un enseignement qui est disciplinant et un enseignement qui est dévalorisant. Et du coup, tous ces commentaires dépréciatifs, les remarques déplacées, les méchancetés gratuites, enfin tout ce qui n'est pas nécessaire, selon moi, à un enseignement disciplinant, ne devrait pas être communiqué. Je pense qu'on peut transmettre la danse avec passion et sérénité. C'est un mot que j'ai envie vraiment d'appuyer, c'est être serein. Lorsqu'on est serein, je pense qu'on peut transmettre de la sérénité. Tout ce qui s'est passé a eu un impact assez fort. Au fur et à mesure, c'était peut-être pas d'un coup, c'était lentement, ça m'a un peu brisée, je l'avoue. Et du coup, ce qui était dur, c'était d'accepter ce qui s'était passé. Je souhaite pas que les futures générations, actuelles et futures générations de danseurs, puissent souffrir comme j'ai pu souffrir par moment. Parce que souffrir, ça fait mal et ça nous rend pas plus forts. C'est pour ça qu'il faut briser cette chaîne de violence pour le bien de la danse, pour la danse, pour l'art. C'est un art magnifique. On est tous d'accord là-dessus.
Voilà, c'est un entretien avec Francesca Mazzuti que nous avons enregistré en début de semaine. Vous qui représentez les danseurs, Sabrina Ostiou, que vous inspire ce témoignage? Francesca Mazzuti dit qu'elle a eu des bons moments au Conservatoire National de Danse de Paris et ailleurs où elle a été formée, mais qu'ils ont été gâchés par ces humiliations plus que des remontrances. On peut véritablement, dans ce cas-là, parler de violence pédagogique.
Tout à fait. Déjà, nous adressons tout notre soutien à Francesca, parce que effectivement, c'est très compliqué après de se reconstruire sur des choses aussi violentes. Effectivement, c'est tout le paradoxe en fait de la danse passion qui est là, qui doit être bienveillante, qui doit et puis qui nous anime. Hein, chacun d'entre nous, chaque danseur le connaît, ceci connaît ce dépassement de soi. Mais en revanche, effectivement, certains pédagogues utilisent certaines armes et certaines, armes pédagogiques destructrices. Et ça n'a plus lieu d'être, effectivement, au XXIe siècle.
Sur l'autel de quoi ? De la discipline, de la rigueur, de l'autorité
Oui, sur l'autel de... Alors, effectivement, sur quelque chose où on va vers l'excellence, il ne faut pas confondre excellence et humiliation. Il y a quelque chose qui est malheureusement avec surtout les anciennes générations ont forgé en fait un caractère. Vous voyez, il faut forger un caractère. Donc du coup, forger ce caractère, ça pouvait passer par des brimades. Alors on parle là ici de brimades effectivement psychologiques, verbales, mais aussi elles peuvent être physiques puisque je vous disais voilà, il y avait des bâtons qui pouvaient apparaître dans certains corps de ballet. Donc du coup,
pour lever le pied plus haut,
ben, évidemment, tout à fait, voilà. Donc encore aujourd'hui, nous, au sein de l'Union Danse Syndicat, qui est la cellule en fait d'écoute au sein de la Fédération des artistes de la danse, nous avons des retours assez récurrents de problématiques, des violences verbales, de violences, de brimades, et malheureusement aussi des violences sexuelles. Hein, il faut le dire.
On va voir que les choses commencent à bouger. Ouais. Je voulais d'abord aller au standard parce que Florence nous attend. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris, Florence, oui. Et vous avez été danseuse.
Oui, alors moi j'ai fait de la danse classique en effet au niveau professionnel, mais j'ai arrêté à 18 ans. Je suis rentrée à l'opéra à 11 ans et j'ai été au conservatoire, j'étais enlevée au bout de 2 ans et j'ai été au conservatoire national de Paris où c'est vrai entre l'opéra et le conservatoire, j'étais une petite fille qui avait très confiance en moi, qui était passionnée, etc. Et c'est vrai que cette expérience de danse m'a complètement démolie. Voilà. Moi ça a été beaucoup d'affection sur le physique. Dès le premier stage à l'opéra, on me disait que j'aurais mieux été vendeuse aux Galeries Lafayette parce que j'étais pas assez gracieuse. Enfin, on a 11 ans, on est passionné et je me retrouve dans Francesca. C'est vrai qu'on est passionné, on adore ça et on subit. Enfin, on reçoit des paroles, des humiliations qu'on ne comprend pas et qui nous démolissent au fur et à mesure. Quoi. Alors déjà, il y a la compétition entre les enfants qui est déjà dure à accepter parce que c'est des copines sans être des copines. Donc,
il y a de la rivalité aussi, ouais. C'est un mélange de camaraderie et de rivalité à ce moment.
Exactement, donc tout ça, moi je l'ai en plus très mal vécu, ça a modifié mon caractère et je suis tombée dans l'anorexie sévère après à l'âge de 20 ans et je m'en suis sortie qu'à 35 ans en passant par plusieurs hospitalisations, j'ai frôlé la mort, je vais passer les détails et voilà, je suis j'ai vaincu cette maladie de manière admirable grâce à des médecins formidables et j'ai eu une petite fille après tardivement, mais enfin à 40 ans et qui va très bien, mais qui malheureusement est passionnée de danse comme moi et je ne voulais pas.
Et on ne peut pas terrible de se dire ça. Merci pour ce témoignage, Florence. C'est terrible de venir à se dire qu'on va abandonner ce qui est bien souvent une passion. Sabrina Ostiou.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est le paradoxe en fait que voilà dont je citais tout à l'heure. C'est le paradoxe entre cette passion qui nous anime tous, qui est vraiment ancrée en nous, qui nous anime le matin, qui fait que on pourrait vraiment nous sommes tous des passionnés hein, de chaque danseur. Il faut savoir que c'est une telle qu'elle soit la discipline, c'est une discipline qui demande énormément de rigueur. De travail et tout ça en fait souvent et malheureusement va être brimé par certaines remarques etc. Donc c'est vraiment problématique.
Mais il commence à y avoir une prise de conscience, Sabrina Ostiou. Il y a des cellules d'écoute, vous en parliez tout à l'heure, qui sont mises en place. Oui. L'Opéra de Paris notamment a aussi mis en place certaines choses ces dernières années. On peut dire que les lignes bougent tout de même.
Oui, les lignes bouge, mais elle bouge, mais très, vraiment très petit à petit, c'est vraiment très, très, tout est fragile, hein, sachant qu'en plus, tout est fragile. Donc, du coup, effectivement, nous, au niveau de l'Union Danse Syndicat, nous avons mis avec, donc, la Fédération des Artistes de la Danse une cellule d'écoute, afin que, eh bien, on puisse entendre et surtout proposer des solutions, parce que c'est très important de proposer des solutions, éventuellement, et être médiateur entre les danseurs et certains pédagogues qui utilisent, malheureusement, eh bien, certaines choses à mauvais escient. Donc du coup, nous, on est là pour essayer que le curseur, en fait, ce curseur très fragile, puisse être remis là où il doit être, en tout cas.
Parce que vous êtes en lien aussi avec les professeurs, avec les maîtres de ballet, vous les représentez aussi. Quel est leur regard là-dessus? Est-ce que certains prennent conscience qu'ils ont parfois mal agi? Est-ce que d'autres ne mesuraient pas l'ampleur du phénomène au sein des écoles de formation?
C'est très timide tout cela. Hein. On va dire que ce qu'il y a, c'est que tous les professeurs tels qu'ils soient, que ce soit les maîtres de ballet, que ce soit les professeurs de hip-hop, de jazz, peu importe, il y a, comment vous dire, une espèce de surpuissance, malheureusement, qui fait que la remise en question est très compliquée. Donc, on y arrive progressivement. Nous, au sein de la fédération, on fait beaucoup de pédagogie. On essaye de faire valoir effectivement cette bienveillance. Comme l'a dit Francesca très justement, il faut absolument que cette bienveillance, elle existe, elle soit là et qu'elle contribue justement à l'excellence.
Ça ne renforce pas l'excellence que de brimer quotidiennement les danseurs et les danseuses.
Exactement. Il faut trouver quelque chose. Il y a des armes qui existent pour que justement, parce qu'il faut savoir aussi, c'est là où un peu la remise en question des professeurs ainsi que des grands maîtres de ballet est un peu timide, c'est que on a les meilleurs danseurs en France. Il faut le savoir. Que ce soit en classique, que ce soit en jazz, que ce soit en hip-hop, nous effectivement,
Vous disiez d'ailleurs qu'en jazz, en hip-hop, on assistait à la situation était quelque peu différente.
Elle est quelque peu différente sur les violences. Les violences sont différentes. Mais elles existent. Les violences sont différentes, justement, dans le milieu du jazz ou éventuellement du hip-hop, où là, nous avons des violences qui sont plus sexuelles, malheureusement. Donc, elles existent aussi, ces violences. Donc, il faut les entendre. Nous sommes là, nous, à chaque fois, voilà, à remonter les informations, à faire en sorte que on puisse prendre en compte ces violences. Bon, c'est, je vous cache pas que c'est compliqué et que c'est long. Mais on y arrivera.
Et d'ailleurs, cette question-là n'est pas une spécificité française. On a vu, on a lu des danseurs témoigner de même comportement en Allemagne, en Italie, en Espagne ou encore en Suisse.
Tout à fait. C'est une méthode pédagogique en fait qu'il faut remettre tout simplement à l'ordre du jour. C'est tout simplement ça. Il faut revoir certaines choses. Il faut revoir effectivement certains comportements qui sont nocifs, justement pour la construction des enfants.
Mais vous pensez qu'on peut faire évoluer les méthodes des enseignants qui sont quand même prêts à ça, que la prise de conscience va quand même faire évoluer les choses?
Mais de facto, oui, la prise de conscience, de toute façon, avec ce qui se passe dans certains milieux, les mouvements MeToo, etc., servent aussi à ça. C'est des formes de violence. La société évolue. Il faut que nous aussi, dans la profession de la danse, il faut en prendre notre part, effectivement, changer certaines choses.
Vous parliez de solution tout à l'heure. Est-ce que vous avez une solution concrète à mettre là sur la table?
Oui, déjà, de toute façon, la formation, tout simplement, la formation donnée dans le cadre des diplômes d'État, des enseignants. Donc, cette formation, il faut qu'elle soit, elle aussi, bienveillante, parce qu'il faut savoir aussi que si on regarde dans tous les artères de la danse, alors, vous parlez effectivement de l'enseignement, mais je pourrais prendre aussi certains professeurs qui se font harceler par certaines associations. Enfin, on est dans le milieu de la danse est très, très particulier. Sur les tournages aussi, les tournages de clips vidéo, etc., il y a de la violence, il y a la violence verbale, il y a du harcèlement. Partout on regarde, il y a cette violence. Le chantier est ouvert, c'est exactement ça.
Merci beaucoup Sabrina Ostiou, vous êtes la présidente de la Fédération des artistes de la danse. Merci à France Bleu Gironde pour avoir assuré la liaison depuis Bordeaux. Merci à Francesca Mazzuti pour son témoignage. Aujourd'hui, elle travaille à devenir professeure de yoga. Notre feuilleton à suivre. Et nous revoici donc dans l'Aube, en pleine forêt, pour la réouverture du parc d'attractions Nigloland. C'est le début de la saison. Et c'est le patron qui embarque aujourd'hui notre reporter Ajra Mohamad. Il s'appelle Rodolphe Gélis, fils et neveu des fondateurs. Tout ça est une affaire de famille. Et il a l'œil sur tout.
On va aller un petit coup au restaurant là-bas. Maël ! Maël ! Comment ça s'est passé ton premier service de l'année là, Maël ?
Premier service, très bien.
Mais ça va, j'ai vu tout à l'heure, t'as pas trop de queue, t'as pas trop de file d'attente, donc c'est bien.
Ouais, service assez fluide, on sert bien chaud et rapidement.
Qu'est-ce qu'on mange à Nigloland? Vous avez une spécialité?
On est un joli grill, on sert des spécialités à base de porc, de bœuf, échine de porc, andouillette, steak haché, classique, c'est ça.
Et à Nigloland, on est très local, donc andouillette de Troyes, là, toutes nos viandes, elles viennent d'ici. Bon, allez, va bosser un peu, mon mec.
Oui, non.
Rodolphe Gélis, président de Nigloland. Malgré une météo un peu compliquée, les visiteurs sont au rendez-vous et les opérateurs, les collaborateurs sont au taquet. Ça se passe plutôt très bien. Honnêtement, ce matin, j'étais comme un gosse le matin de Noël, vraiment surexcité. Et ça fait du bien après un hivernage où le parc est calme, de re-entendre la musique, de ressentir les odeurs de barbapapa, de sucette et de revoir les visiteurs. On a environ 750 000 visiteurs chaque année qui viennent entre avril et novembre. Et pourquoi ça marche? C'est assez simple. Je pense que c'est la singularité du lieu, qui est une forêt entre le vignoble, une rivière naturelle. C'est avant tout une balade à la campagne, au vert. On dit souvent que Nigloland est un peu au milieu de nulle part, mais honnêtement, c'est une force.
Il y a la question du prix aussi.
Oui, en fait, Nigloland, on va dire que c'est une journée de vacances à petit prix, à partir de 35 €. Donc ça peut permettre parfois aux gens qui ne partent pas ou partent pas loin ou ne peuvent pas partir longtemps, ils ont une bonne excuse pour venir à Nigloland et ça fait un bon break. Le loisir, la distraction, c'est quelque chose d'absolument vital, nécessaire. On a besoin de s'amuser, on a besoin de rigoler et surtout on a besoin de partager des moments entre amis, en famille. Et les parcs d'attraction, c'est un palliatif à beaucoup de maux et vous pensez à rien ? Pensez à vous amuser, ça c'est phénoménal. Salut Nino. Tu vas faire le petit tour de train?
Oui.
Ah bah dépêche-toi, il va partir, il va pas t'attendre.
Ça fait quoi de grandir dans un parc d'attractions?
Ça fait bizarre, ça fait mal travailler à l'école. Je faisais jamais mes devoirs, je venais toujours au parc. Bonjour les filles. Manger des barbes à papa, plein de bêtises. Mais j'ai l'habitude de dire que j'ai passé la plus belle enfance possible et imaginable, honnêtement. C'est fantastique d'avoir un parc pour soi. Surtout que j'avais des parents sympas, parce que mon oncle ou mon père, le soir, m'ouvrait les attractions, ou quand c'était fermé. Tu veux faire ça, ça? Ouais, ok, on y va. On prenait la clé, et c'était parti.
Et la suite, vous imaginez comment? J'imagine qu'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter, non, Igloland?
Et évidemment, comme une entreprise qui fonctionne bien, voilà, on est parfois courtisé, mais c'est pas du tout d'actualité. Et puis, je pense que mon père, mon oncle ou même les générations d'avant se retourneraient dans leur tombe si on vendait le vraiment, c'est le bijou de famille ici. On est tous là, donc on peut pas se permettre de vendre ou de partir. Au moins, voilà, on a les vrais sons du parc.
Il y a le petit train qui passe derrière nous.
Voilà. Bah ça, par exemple, c'est la toute première attraction du parc, le train. C'est mon attraction préférée. J'ai grandi dedans, j'ai passé mes journées dedans. Et j'essaye de transmettre à mes enfants, de mettre dedans, je les laisse aux opérateurs, je les fais tourner toute la journée. Comme ça, je suis tranquille. C'est un beau métier, quand même.
Une semaine dans leur vie à Nigloland, reportage d'Ajra Mohamad, réalisé par Stéphane Ronxin, à réécouter sur le site de France Inter.
France Inter, le 13-14.
Et à 13h50, c'est la France aujourd'hui avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Un regard sur la France et sur le vélo qu'on utilise désormais plus que la voiture à Paris.
Et oui, Hélène, sans doute avez-vous en tête la complainte de l'heure de pointe, cette fameuse chanson de Joe Dassin que l'on fredonnait en 1972. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos et à vélo à Paris, on dépasse les taxis. Cette ritournelle visionnaire est en effet devenue réalité puisqu'en 2023, d'après une enquête de l'Institut Paris Région publiée début avril, la part des déplacements à vélo a été supérieure à celle de la voiture pour les trajets à l'intérieur de la capitale et entre Paris et sa petite couronne. Si la marche à pied et les transports en commun n'ont pas été supplantés par la petite reine, l'événement est pourtant historique. Pour la première fois, le vélo envoie un sacré coup de pédale à la voiture. Voilà, avec une contrepartie inévitable, c'est sur certaines pistes cyclables que ça bouchonne aux heures de pointe, du côté des grands axes comme le boulevard de Sébastopol ou celui de Strasbourg, ou encore rue de Rivoli qui est devenue la voie royale des vélos. 11,2% des déplacements se font ainsi à bicyclette, contre moins de 5% avant le confinement. Sur les grands boulevards, aux Invalides et même sur le pont de la Concorde, j'ai essayé. On peut désormais pédaler sans risquer, passez-moi l'expression, de se faire tailler un short. Encore faut-il être prudent et regarder sans cesse à droite, à gauche et devant pour ne pas risquer un accrochage avec un autre deux roues lancé à vive allure. Paris compte aujourd'hui quelques 1000 km de pistes cyclables et devrait à terme en compter 1500. Les plus audacieux peuvent même pousser jusqu'au bord de Marne ou longer le canal de l'Ourcq en direction de Villers-Cotterêts pour se retrouver en pleine verdure. Vous me direz que c'est sans difficulté, mais comme l'observait jadis l'écrivain René Fallet, ceux qui font du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat.
Et les Jeux Olympiques, Eric, vont-ils accélérer cette révolution aux airs de vélorussion?
Alors sans aucun doute, Hélène, car d'ici la grande fête du sport à Paris, ce sont 60 km de pistes cyclables qui seront au total mises en service, dont 30 km de voies entièrement nouvelles pour relier sur deux roues tous les sites des compétitions. Ces pistes seront habillées aux couleurs des Jeux, un revêtement bleu ciel avec des pictogrammes spécifiques. Ainsi, des pistes inédites desserviront la Porte de la Chapelle et sa nouvelle aréna. D'autres relieront le centre de Paris au célèbre Parc des Princes et il sera désormais possible de rejoindre le Stade de France en passant par le canal Saint-Denis. Des infrastructures qui resteront praticables après les JO et pour l'occasion, 3000 Vélib supplémentaires seront mis à disposition des cyclistes.
Et ces cyclistes que vous connaissez bien, Eric, ont-ils changé ces dernières années ?
Alors oui, en effet, ces nouvelles générations de cyclistes ne ressemblent pas tout à fait aux cyclistes d'antan dont je suis, sans être tout à fait antédiluvien. D'abord, ils profitent des techniques nouvelles, à commencer bien sûr par le vélo à assistance électrique, qui permet d'affronter les coups de vent contraires le long de la Seine, quand on quitte par exemple la maison de la radio, ou de grimper sans trop transpirer vers Montmartre, Gay-Lussac ou la rue Saint-Jacques. Ensuite, ces cyclistes utilisent moins le vélo pour se balader que comme outil indispensable pour se rendre sur leur lieu de travail. et nombreux optent pour le vélo pliable ou le Vélib qui vous attend sur la chaussée comme une invitation au voyage.
Et à la une du 1 Hebdo cette semaine, Eric ?
Alors cette semaine, Hélène, c'est un long, grand entretien avec l'auteur de SF, Alain Damasio, L'humanité face à l'intelligence artificielle.
Merci Eric Fotorino. Et l'on termine ce 13-14 avec une chanson et une certaine émotion à réécouter Judith Magre. Frédéric Pommier l'a rencontrée, a rencontré la comédienne de 97 ans en septembre dernier. Elle avait voulu lui parler de la chanson Les Feuilles Mortes. Et c'est la version de Marcel Mouloudji que Judith Magre a souhaité qu'on écoute.
Moi, je suis attachée à cette chanson quand elle est chantée par Mouloudji. D'abord parce qu'elle est très belle, que les paroles sont très belles, que la musique est très belle, et que Mouloudji était d'abord un ami, quelqu'un que j'adorais. On traînait à Saint-Germain-des-Prés du temps de notre enfance. Enfin, je trouve qu'il la chante d'une façon absolument merveilleuse, très émouvante. Bon, moi, je n'aime pas me pencher sur mes souvenirs. D'ailleurs, je ne me penche jamais sur mon passé. Mais enfin, là, tout à coup, quand j'ai repensé aux Feuilles Mortes et à Mouloudji, ça m'a donné un petit coup de nostalgie, chose que je déteste. Parce que les bons souvenirs, ça fout le cafard, évidemment. Et les mauvais, ça fout le cafard aussi. Alors, il vaut mieux rester tranquille dans son présent qui évolue très vite chaque jour et qui est d'une façon générale assez chiant.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois. Je n'ai pas oublié.
Je n'ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs. Et les regrets aussi.
Et les regrets aussi.
Des regrets, vous en avez ?
Non. Parce que à quoi ça sert d'abord ? Ensuite, j'ai fait des tas de conneries, des choses que j'aurais préféré ne pas avoir faites. Mais moi, j'ai toujours été heureuse en amour. Et je suis toujours tombée sur des hommes qui étaient absolument adorables. Donc, en tout cas, de ce côté-là, je n'ai pas de regrets.
C'est une chanson qui nous ressemble. Moi, je t'aimais et tu m'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Moi qui t'aimais.
Cette chanson, elle me fait pleurer, j'aime pas ça. Alors je cherche un mouchoir, je renifle, puis j'arrête d'y penser.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ?
De mourir très vite. C'est la chose qui peut m'arriver de plus agréable. Oh là là, quel bonheur !
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Vous voulez pas me tuer, là, un petit coup ? Vous avez peur d'aller en prison ? Lâche, comme tout le monde.
Mais non, vous voulez vraiment que ça s'arrête ?
La vieillesse est une chose absolument horrible. Moi, j'ai toujours souhaité mourir jeune. Bah, mes voeux n'ont pas été exaucés, je n'ai pas prié suffisamment. Et moi, qui n'étais pas croyante, je trouvais que le Christ, il avait eu bien de la chance de mourir à 33 ans. Ah, évidemment, on lui avait fait des trucs qui ne m'auraient pas plu. Mais bon...
Vous y pensez beaucoup, à la mort ?
Ah bah je pense qu'à ça, je ne pense qu'à ça. Il est temps.
Pas avant la première.
Oh bah écoutez, à ce moment-là, je m'en foutrai, et tout le monde s'en foutra. De toute façon, vous savez, quand les gens meurent, il y a quelques pleurnicheries pendant 24 heures, et puis à part ceux qu'on a vraiment aimés, bon bah, hein, ça passe vite, les pleurs. Heureusement.
Et la mer efface sur le sable les pas
des amants désunis.
Judith Magre, toujours sur scène à 97 ans au Théâtre de Poche Montparnasse. Chaque lundi, dans le spectacle, Judith prend racine aux Poches et ce midi avec Frédéric Pommier. Juste après l'info, on retrouve Daniel Fievé. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Quoi donc au menu de la Terre au carré, Daniel?
Au menu, justement, nos vignes et nos vins à l'épreuve du changement climatique.
Je vous dis à tout à l'heure, dans un instant, l'info.